I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allez, on se tient au jus.
Salut, c'est Camille et Justine et bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, nous sommes avec Léane Alestra, plus connue sous le nom de Mécréante.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Pour te présenter à nos auditeurices, voici notre fameuse acrostiche.
Fameux comme tout.
Fameux comme tout. Léane, elle comme les hommes hétéros le sont-ils vraiment ? C'est le titre de son excellent essai sorti cette année qui questionne l'injonction à l'hétérosexualité chez les hommes.
E comme engagée et militante, elle tient le compte Instagram Mécréante et anime le podcast du même nom.
A comme activisme, elle propose aussi des ateliers, des conférences, des articles, des vidéos éducatives, des sorties collectives et plein d'événements pour militer à différentes échelles.
N comme Nos amours radicales, l'ouvrage collectif qu'elle a coécrit avec 7 autres personnes qui tentent de déconstruire notre rapport à l'amour amoureux.
E comme énervée, comme nous, elle veut démonter le patriarcat, elle le dit franchement et sans s'excuser, c'est pour ça qu'on adore la suivre.
J'adore.
Voilà, c'est Mécréante.
C'est Mécréante
du coup.
Ouais, du coup, à la base, donc moi, je suis protestante, enfin, j'ai pas fait le changement, mais bref. Et du coup, j'aimais bien cette image de un peu genre brebis égarée, tu vois, genre, c'est ça que ça veut dire Mécréante, brebis en dehors du troupeau, donc c'est-à-dire jamais vraiment à sa place. Dans les milieux religieux, mais jamais vraiment à sa place non plus dans une gauche très laïcarde, tu vois, qui va pas forcément essayer de réfléchir à pourquoi est-ce qu'autant de personnes traumatisées slash pauvres, etc., s'intéressent à la spiritualité ou à la religion. C'est peut-être pas parce qu'ils sont tous teubés. Et donc, voilà, c'était un peu ça. Puis aussi, une petite référence à Kaamelott, pour le côté plus pop culture.
On a noté donc tout ce que tu faisais, sans rapporter toujours tout à l'âge, mais il faut quand même noter que t'es très jeune.
Oui, j'ai 25
déjà
ans.
Mis tout ça en... 25 ans.
25 ans.
On se disait que j'adore. Ouais. Non, mais on, ouais, en fait, c'est. Je trouve ça quand même important de le noter, non pas pour dire oh, c'est fou de faire tout ça à ton âge, même si en vrai c'est fou, mais c'est aussi un peu rassurant. On se dit bon, effectivement, il y a la nouvelle génération. Je parle comme une vieille
qui débat, qui prend les choses en main. Mais d'ailleurs, t'es toujours en études en ce moment.
Là, j'ai juste mon M2, mon mémoire de M2 à rendre. Sinon, j'ai fini tout le reste. Mais avec le livre, du coup, j'ai rendu en décalé mon mémoire. Donc, je suis en train d'écrire le mémoire de M2. Là.
Voilà. Okay. Et sur deux
De genre, du coup, à Paris 8. Voilà. Et avant, j'ai fait du design, rien à voir. Mais ça m'a bien servi pour mes créantes de maîtriser tout ce qui est chartes graphiques, logos, site internet, tout ça. Genre.
Pratique.
Voilà.
Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que ton compte Insta est très beau.
Merci.
Ça se voit, une petite patte artistique derrière.
Toi, merci. T'aimes bien.
Moi, j'aime bien.
Toi, t'adores.
J'aime bien. J'arrive plus facilement à regarder quand c'est joli. Alors que pourtant, tout le monde n'a pas les aptitudes, effectivement, à rendre du contenu joli. Et ça peut être tout à fait intéressant, mais...
Je vais plutôt aller vers le joli. Et du coup, tu vas au master d'études de genre parce que ça t'intéresse, t'as la petite flamme en toi déjà, ou c'est parce que tu te retrouves dans un master comme ça que ça développe ton indignation, ton antipatriarcalisme,
patriarcat, hein,
oui, mais ton antipatriarcat, ça
ouais, ouais.
Manque un.
Ouais, j'entends.
Non, en fait, j'avais déjà Mécréante depuis un an, et moi, ça faisait genre 5-6 ans que je lisais des trucs dans mon coin, et du coup, j'ai repris des études de genre à Paris 8 pour continuer à me former sur ces questions-là. Okay. Et en plus, j'écrivais mon livre en parallèle, donc c'était génial parce que j'avais une question, je pouvais aller voir un prof, enfin voilà. Et du coup, j'ai réussi à faire valoir déjà mes travaux, ce qui m'a permis de rentrer directement en master, en M1.
Ok, donc c'est donc. Et qu'est-ce qui a fait naître en toi la colère,
la flamme féministe?
Peut-être soit il y a quelque chose, soit c'est plein de choses, hein, mais. Est-ce que toi, t'as un déclic, quelque chose ?
Ouais, bah, y a eu plusieurs étapes. La première, j'ai vécu des violences sexuelles au lycée. Et donc, j'ai eu un an de déni. Puis après, j'en ai parlé à une responsable du lycée, l'aumônière d'ailleurs. Et du coup, là, j'ai un peu compris que c'était grave parce que c'était la première un peu à écouter. Et puis ensuite, du coup, genre, je suis tombée sur un directeur du lycée horrible qui m'a fait tous les trucs qu'on imagine, genre en mode est-ce que j'avais bu, est-ce que. Nan, 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 bref, combien de mecs j'avais avec. avec combien de mecs j'avais couché, etc. Enfin, vraiment le truc.
Parce que ta jupe était trop courte.
Ouais, non, mais c'était vraiment ça. Et du coup, genre là, j'ai compris qu'il y avait un truc un peu systémique, je veux dire, parce qu'en plus, il était en mode n'en parle pas à la presse, parce que j'étais pas la seule, il y avait une dizaine de filles. Enfin, bon, bref, voilà. Il n'a jamais rien eu, hein, spoiler alert. C'était un mec de bonne famille, etc.
Trop étonnant, d'habitude, ils sont vraiment condamnés.
Un bon voilà. Père de famille, comme voilà.
Un bon fils de famille,
ouais, du coup. Ouais.
Donc là, j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Et moi, j'étais déjà gaucho dans l'âme depuis que j'avais genre, depuis l'enfance.
Ça aide.
Et après, j'ai commencé à lire pour essayer vraiment d'avoir des réponses, en fait, pour essayer de comprendre et tout ce qui se jouait. Et ensuite, moi, ce qui m'a fait vriller, c'était vraiment... Enfin, vriller de « j'ai envie d'avoir mon espace pour m'exprimer, pour essayer de répondre à toutes ces phrases à la con que j'entends, mais en essayant de creuser un petit peu, pour que vraiment les gens qui se posent des questions puissent y répondre pour ensuite être plus solides sur leurs pieds, quoi, pour militer. » Et donc ça, c'était avec l'affaire Polanski, du coup, où là, ça m'a vraiment fait péter un plomb, parce qu'en fait, du coup, je voyais ce que les gens disaient dans
quand
mon entourage.
Revient, sur le devant de la scène, ouais. Où il
ça, c'était quand
César,
pour moi, c'était il n'y a pas si longtemps, bah non, en fait. C'était il y a déjà un moment.
Quand Adèle Haenel, elle dit on se lève et on se casse, ouais, ça commence
c'est
à,
ce moment-là.
À dater un peu. Ouais, c'est avant vrai. Covid, non c'est
2019, je crois.
Il y a avant et après Covid.
Non, mais ça
2019,
doit être
2019, ouais. 2020,
ouais. T'étais très jeune.
Ouais, non, mais du coup, c'est vrai que là, j'ai un peu pété un câble, notamment où je voyais mon ancienne coach sportif qui, du coup, prenait vachement la défense de Polanski alors qu'elle a des enfants et des ados, tu vois, à charge. Et je me dis, qu'est-ce qui arrivera le jour où ce sera quelqu'un qu'elle aime bien qui va être accusé. Enfin, tu vois, il y avait un peu un truc comme ça qui me faisait péter un cap de voir à quel point les gens s'exprimaient sur cette affaire sans rien connaître et en déclarant que toutes les plaignantes ou potentielles victimes étaient forcément coupables par défaut sans rien connaître, sans même savoir qu'il était recherché par Interpol et tout. Donc ouais. Là, j'étais vraiment en mode... Et aussi, il y avait toutes les meufs de ma classe qui avaient vécu des violences sexistes et sexuelles qui, à ce moment-là, sont mises en arrêt maladie. Et là, je me suis vraiment rendu compte que
en
l'actualité...
En arrêt maladie à l'école ?
Ouais.
Genre, elles ont pris de...
Parce qu'on était en master, du coup, on était tout en contrat pro. D'accord. Tu vois, donc on avait moitié entreprise, moitié, donc elles ont... Ouais, ils ont vraiment.
Mais en mode acte de rébellion ?
Non, acte de désespoir, parce qu'en fait, l'actualité.
C'était dans le
mal. Ouais,
c'est
voilà,
pas
c'est
un
ça.
Acte commun de.
Non, non. Non, c'est juste que ça les a mis trop dans le mal.
C'est un acte commun.
Ouais, mais ouais.
De, on est plusieurs à réagir comme ça, mais oui, ça leur a retourné
les
bites.
Ouais, ouais, ouais. C'est là que tu te rends compte que l'actualité a vraiment un impact sur la santé mentale des personnes concernées, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça le point de départ.
Tu parlais, enfin, je sais pas si tu veux approfondir le sujet ou pas, mais juste, c'est un truc, je sais pas si on l'a trop abordé encore dans le podcast, mais tu parlais de déni d'un an après violence sexuelle. C'est un truc qu'on entend souvent chez les victimes d'agressions sexuelles, diverses et variées. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi il s'agit et ça pourrait vraiment aider de comprendre pourquoi une victime porte plainte 5 ans après ou ne parle pas pendant des années ou ne se prononce pas pendant des mois et pourquoi elle s'est réveillée plus tard. Et je me rends compte que même dans mon entourage un peu proche, quand j'essaye d'expliquer cette notion, ça rentre pas. Et donc quand tu dis déni, tu parles d'amnésie post-traumatique ou pas, ou c'est deux choses différentes?
Je pense un peu les deux. Enfin, moi, c'était compliqué parce que déjà, donc, la personne était dans ma classe. Donc, du coup, je l'avais au quotidien avec moi. Et ensuite, c'était une période où j'étais déjà en grande vulnérabilité parce que j'avais des gros problèmes familiaux. Ce que, du coup, en plus, le prédateur savait et a joué dessus, tu vois. Et donc, moi, je pense que ça a mis sous le tapis ça parce que j'avais déjà trop de problèmes familiaux à gérer. Et du coup, mon inconscient, pour pas que je pète un câble, m'a dit ça, on verra plus tard. Donc, du coup, genre, oui, oublie ou où tu pouvais pas vraiment y penser, ou alors tu disais que t'avais que des détails flous et que c'est voilà, c'est ça,
c'est pas si grave, ou un truc un peu sous le tapis, quoi.
Ouais, et puis t'évites d'y penser et tout, donc ça. Et puis en plus, c'était une période où il y avait pas forcément de poste sur c'est quoi vraiment un viol, donc t'imagines toujours l'inconnu. Enfin, c'était vraiment une période pré-MeToo où t'imaginais l'inconnu et tout. Et du coup, j'ai commencé à un peu avoir le déclic grâce à Payta Schneck, qui avait commencé à mettre du coup une campagne sur qu'est-ce que c'est le viol à cette époque-là sur Facebook. Et donc là, j'ai commencé à un peu avoir un réveil, tu vois, des images qui revenaient et tout, et un peu ce truc de ah oui, mais en fait ça ressemble à mon histoire et j'ai potentiellement le droit d'utiliser ce mot, ce que je m'interdisais avant. Et ensuite, du coup, j'ai écrit et donc là c'est sorti et le déni est complètement sorti à partir de là. Mais oui, il m'a fallu un an, je pense, juste pour pas que je m'écroule. Et déjà parce qu'après, une fois que tu sors du déni, ça faisait que j'avais encore 8 mois à passer dans sa classe où il se mettait derrière moi à chaque cours et il me soufflait dans le cou, et donc je devais écouter les cours, prendre mes petites notes, et comme si de rien n'était, parce qu'en plus le directeur refusait de me changer de classe pour si peu, hein, bah oui, hein, quand même. Donc tu vois, et je pense une fois que t'en as conscience, après, genre, c'est une lutte au jour le jour. Et le jour où j'ai eu mon bac, je me suis écroulée et tout, de soulagement, même si je comprenais pas trop pourquoi je pleurais autant, tu vois. Tout le monde était là, c'est bon, t'as eu ton bac, enfin. Et j'étais là, oui, mais bon. Et voilà, du coup, des fois ton cerveau met en off parce que là il peut pas traiter l'information, quoi. Voilà. Mais ouais. Il faut savoir que c'est très mauvais. Plus t'attends pour prendre soin de te réparer et pour prendre soin de tes traumas, plus ça risque d'avoir des séquelles à vie. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. On parle beaucoup des conséquences psychologiques, mais il y a aussi tout un tas de conséquences physiques, de maladies inflammatoires. Ouais, voilà, exactement. Et qui créent énormément de problèmes de santé, quoi. Donc c'est très grave, il faut vraiment essayer de prendre ça en charge
ouais, si possible. Mais plus quoi. On prendra effectivement au sérieux le concept d'agression sexuelle et de viol, enfin de tout le monde quoi, plus les victimes auront la possibilité de parler plus tôt effectivement, parce que là juste quand t'es dans une situation comme la tienne, c'est une situation tellement commune malheureusement d'être bien dans sûr. Un cas de pression sociale où les ouais où les enfin ouais les gens n'y croient pas, les gens minimisent, les gens enfin ne prennent pas en considération et t'es juste là à rester dans ta peine solo quoi, enfin bref c'est voilà, faut s'informer.
Et puis une question de confort aussi, où les gens veulent rester absolument dans leur petit confort perso.
Ouais. En fait, pour le directeur, à ce moment-là, quand tu vas le voir, c'est plus facile pour lui de se dire non, elles doivent un peu tout exagérer, que de se dire ok, je fais quoi pour prendre en charge ?
Il y a j'en des agresseurs dans mon école.
Ouais, ouais. J'en fais quoi ? Sachant que, comme tu disais, peut-être c'est un fils de bonne famille, les parents peut-être donnent de l'argent à l'école, c'est important. Enfin, c'est malheureusement effectivement assez commun, finalement, comme histoire et je pense que ça c'est une notion que moi je mentionne souvent, ce truc de confort, enfin ce truc de c'est plus facile de penser que c'est pas vrai que de vous dire que dans chaque classe il y a plein de filles qui se font agresser par des camarades, des profs, des aides profs, j'en sais rien, mais c'est beaucoup plus facile de se dire qu'il y en a pas, parce que sinon ça veut dire qu'il faut régler le problème, ça arrange rien du tout, mais c'est plus facile pour les gens à titre individuel.
Les nombreux parents d'enfants qui ne croient pas leur enfant,
l'inceste
qui vivent de l'inceste, c'est genre hyper courant de ne pas croire ça
parce que parce que c'est intolérable. Ouais, c'est intolérable, en plus ça devient intolérable quand c'est sur ton enfant, donc tu te dis mais je peux pas prendre en charge cette info puisque en fait sinon ça veut dire que mon enfant a subi un truc, j'ai pas réussi à le protéger, donc toi en tant qu'être humain, que parent, t'es détruit. C'est intolérable et c'est plus facile de dire. C'est pas.
Ouais.
Mais c'est catastrophique, hein, bien évidemment.
Oui.
Bien évidemment.
Ambiance vandale, danse devant.
Ambiance scandale, danse de vandale, c'est pas ça.
Ah oui,
ambiance scandale, la chaleur. Et tu parlais de que t'étais protestante, donc religieuse, enfin pratiquante. Comment tu as mélangé les deux, ou est-ce qu'aujourd'hui tu t'es éloignée de la religion, ou est-ce que t'arrives à mixer, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de mixer féminisme et religion, forcément, de historiquement, de tout ce qu'on connaît des religions, de la manière dont elles sont créées. Toi, c'est deux choses qui sont encore présentes pour toi, ou t'as fait un espèce de rejet ?
En fait, ça dépend. Là, c'est un petit peu, tu vois, des hauts et des bas et tout. Mais c'est vrai que moi, genre, surtout quand ça allait très mal, du coup, la religion a été vraiment un espace où je pouvais poser des questions, avoir une forme de vie philosophique, tu vois, et j'ai failli être bonne sœur d'ailleurs, en terminale, j'ai failli rentrer dans les ordres, ce qui terrifiait mon père, qui est pour le coup très gauche, laïcard, et voilà, mais quand en fait, beaucoup de personnes LGBT, parce que beaucoup de personnes LGBT, finalement, tu vois, vont se cacher derrière ce truc de, non, mais je m'en fous des garçons, mais c'est parce que je suis pieuse, et je me tourne vers la religion, tu vois, il y a vachement ce truc-là, et qui te permet de sortir de l'hétérosexualité un petit peu, tu vois, si t'es bonne sœur, moi, je pense qu'il y avait cette pensée réconfortante de, tu vois, genre je pourrais un peu sortir du capitalisme, je pourrais traîner qu'avec des femmes, je serais pas obligée de me marier, d'avoir des gosses, tu vois.
Rire, ouais.
Ouais, ouais. D'une certaine manière. Mais même si c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la réalité, tu vois.
Là, comme ça, sur le papier, bon. Voilà. Faire ton petit jardin avec tes copines, bonne sœur.
Oui, tu te dis pourquoi pas. Donc bon, après, j'ai changé de voix. Mais en fait, surtout, ce qui m'avait vachement sauvée, c'était un endroit qui s'appelle Thésée, qui est plutôt gaucho d'ailleurs, et qui, du coup, sous son toit, t'as des protestants, des orthodoxes et des cathos. Et t'as aussi beaucoup de réfugiés de toutes les confessions, musulmans et tout. Thésée, c'est une communauté qui est en Bourgogne, je crois. Et donc, c'est trop bien. T'as des gens du monde entier qui viennent là-bas. C'est très ouvert. Tout est écrit à l'écriture inclusive. Enfin, genre, vraiment, ils sont vraiment beaucoup plus inclusifs que beaucoup d'organisations de gauche qu'on peut voir. Genre, tout est pensé pour les personnes en situation de handicap et tout. Et donc, ça m'a vachement permis de me réconcilier justement avec la religion, parce que c'était possible en fait d'avoir un endroit progressiste à l'écoute qui fait beaucoup de choses pour le féminisme. Toutes les semaines, tu as des conférences et tout sur comment éviter l'emprise et les violences sexuelles en milieu religieux, sur la place des femmes dans la Bible et la place des personnes queer et tout. Enfin, vraiment,
ça
questionne, quoi. Donc ça, c'était cool. Et du coup, c'est un des seuls espaces où je vais, notamment parce que j'ai du coup une église qui appartient au Frado Tézé à côté de chez moi, donc du coup j'y vais de temps en temps parce que c'est un espace où je me sens bien et où tu as beaucoup de, par exemple, de réfugiés LGBT de Pologne qui viennent et qui se rendent compte que, tu vois, par exemple, c'est normal à Tézé d'entendre ouais, j'ai cru toute ma vie que j'étais lesbienne, mais là je remets toute mon identité en question parce que je suis tombée amoureuse d'un prêtre qui est un mec trans, tu vois, c'est genre ça, c'est normal à Tézé, tu vois. Voilà, bon, okay, bah, il y a des problèmes comme partout, mais c'est quand même. Quand même cool, quoi. Donc voilà, il existe aussi des endroits où la religion peut être progressiste, même si c'est minoritaire.
Et ouais, voilà. C'est possible de vivre sereinement une foi dans un engagement progressiste et féministe et antipatriarcal et tout ça. Ouais. N'en déplaise aux fachos, c'est possible.
Oui, c'est possible. Voilà.
Merci pour cette petite parenthèse que c'est, ouais, l'aspect religieux. C'est nous, avec Justine, on est athées, donc on ne sait pas trop, mais c'est vrai que ça questionne toujours. Parce que les fondements des textes religieux sont toujours problématiques, parce qu'ils ont été écrits à l'ancienne par des bonhommes, concrètement, enfin, si je puis me permettre.
Puis surtout, t'as vraiment des problèmes de comment ça a été traduit, comment c'est interprété, mais sur absolument tout. Tu peux tout relire. D'ailleurs, c'est un champ d'études qui s'appelle la théologie queer. Donc, t'as eu déjà la théologie de la libération. Donc, c'est-à-dire qu'en Amérique du Sud, pour amener le communisme, ça a été prêché à la messe, en fait, parce que là, il y avait tout le monde, etc. Donc, on a inventé une théologie de la libération, donc une théologie communiste. Mais ensuite, t'avais tout un mouvement antiraciste qui était en mode elle est incomplète parce que vous prenez pas contre le racisme, ensuite la théologie féministe, puis la théologie queer qui a rassemblé tout ça.
Oui, c'est des relectures, sachant que ça a été traduit, passé de main en main, etc.
Et ça existe pour tous les grands textes religieux. Voilà, et donc je le cite d'ailleurs dans mon livre et j'en parle un peu de la théologie queer qui s'axe du coup sur la théologie de la libération. Et donc c'est très intéressant et ça t'apprend plein de choses, notamment, et c'est pas une blague, que Jésus était gay. Voilà.
Oui, c'est vrai que tu dis ça parce qu'il est entouré que par des mecs.
Ouais, et puis parce qu'avec Jean...
Ouh, Jésus, plus Jean, égal cœur.
Égal, il a dit à Marie que c'était son mari. Voilà, c'est... donc... bon, c'est explicite, quoi.
Allez. Mais d'ailleurs, oui, donc ton livre, on peut en parler un petit peu aussi, parce que c'est le postulat de départ, moi, je le trouve hyper intéressant. C'est l'injonction, effectivement, enfin, c'est étonnant de vivre dans un monde, on parle du monde là, dans lequel nous on vit, par exemple en France maintenant, en 2023 et tout, mais de vivre dans un monde où on pousse les hommes à être hétéros, on est encore en train de sublimer l'hétérosexualité à absolument envers et contre tout, et parallèlement à ça, et paradoxalement, on dit aux hommes, restez entre hommes, c'est trop bien, les bromances, les boys clubs, vos potes c'est plus important, la honte, tu traînes avec des meufs alors que tu devrais traîner qu'avec des gars, c'est beaucoup plus normal, et c'est normal que vos mecs, mesdames, ils aient envie de sortir avec leurs potes, etc. Donc en fait, on pousse un truc.
Tout nu, tous ensemble dans les vestiaires de foot.
Oui, voilà, par exemple, de se faire des olives, toutes les... Non mais j'en sais rien, tout le tintouin, là, le jeu de la biscotte, que sais-je encore. Mais donc, c'est finalement hyper homo-érotique un peu.
Oui, c'est ça.
On élève les hommes dans une détestation de tout ce qui est féminin, mais après on leur dit, par contre, faut aimer absolument les femmes. Faut absolument
c'est ça.
Coucher avec des femmes.
Et en plus, on leur dit d'être homophobes et en même temps de rester entre eux. Mais parce que l'homophobie, pour moi, c'est du sexisme, en fait. L'homophobie masculine...
Oui, parce qu'il faut pas être pénétré.
Oui. Et puis même de base, enfin comme si t'as lu le livre, tu le vois, c'était vraiment cette idée que le péché originel d'Ève et d'Adam, on le porte en nous. Donc le péché d'Ève, c'est le fait de séduire les hommes, et le péché d'Adam, c'est celui qui se retrouve dans les hommes. Donc c'est celui de pas contrôler ses érections.
De céder à la tentation.
Voilà, et de ne pas contrôler ses érections. Du coup, c'était sa marque du péché. Donc du coup, c'est comme ça que, in fine, tu vois, siècle après siècle, l'homophobie est née de ce truc de si t'es un homme et que tu séduis un homme, tu as en toi le péché d'Ève, donc tu es une femme, donc du coup tu n'es pas un homme, donc c'est chétan, tu vois. Et c'est pour ça que c'est vraiment lié au sexisme de façon même historique, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, en fait, quand tu te penches un peu sur tout ce qui est LGBTophobie, tu te rends compte que c'est imbriqué dans le régime de l'hétérosexualité et dans le sexisme. C'est pour ça qu'il peut pas y avoir d'un côté les combats LGBT et de l'autre le féminisme. En fait, c'est imbriqué, quoi.
Évidemment. Et je vais te poser la question, peut-être une question un peu chiante. Elle est pas du tout coquine. Elle est pas coquine pour un sou. Non, mais c'est un peu évident. Mais est-ce qu'il y a des hommes hétéros qui lisent ton livre ?
Oui.
Tu sais ou pas ? Enfin, je veux dire, comment on a des retours là-dessus ? Parce que évidemment, moi, je le lis. Bah, je me dis trop bien. C'est un postulat auquel j'avais déjà un peu réfléchi. Enfin, ça m'intéresse. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi que à un moment, les hommes cis hétéros lisent ce genre d'ouvrage pour se questionner. Mais pas forcément ceux qui étaient déjà d'accord. Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit « Ah, ça m'a un peu bousculé dans ma façon de penser ?»
Ouais, ouais. Mais souvent, ça a été offert par une meuf de leur entourage, on va pas se mentir. Voilà. Mais,
c'est nous qui met l'argent.
Non, mais comme les gens qui nous écrivent et qui nous disent « grâce à ma meuf, je regarde même les gens qui nous... Les rares mecs qui nous arrêtent dans la rue nous disent « Oui, ma meuf m'a dit de regarder ton contenu, c'est cool, j'ai appris plein de choses. » Ils vont pas de même. Hein.
Mais après, pour moi, tu vois, c'est comme si t'écris sur la bourgeoisie, est-ce que vraiment la vie de Bernard Arnault sur ton livre, c'est le plus important. Pas sûr, mais moi, le livre s'adresse vraiment à tout le monde parce que du coup, il questionne la domination masculine, mais du coup, on a tous un rapport à ça, puisqu'on se construit en miroir ou en opposition à la domination. Mais tu vois, ce qui va être valorisé dans la société, ça nous traverse tous. Et donc, ça, c'était intéressant. Je ne m'adresse pas forcément aux hommes hétéros cis. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un move qu'il faut avoir tout le temps. Parce qu'en fait, les mecs, ils ne respectent absolument pas la pédagogie féminine. Tout simplement parce qu'ils ont eu leur mère qui les a élevés, une professeure des écoles qui les a élevés, l'infirmière qui les a élevés. Donc, en fait, tout le travail de care des femmes, ils le prennent pour un dû. Et pour eux, ça n'a pas de valeur dans une société capitaliste où ce qui a de la valeur est payant, marchand, et il faut aller le chercher, tu vois. Exactement. Donc en fait, les mecs, c'est pas pour rien que leur livre préféré féministe, c'est King Kong Theory, est quand même pas très tendre avec eux, tu vois. C'est parce qu'il faut un peu leur rentrer dedans, ou du moins n'en avoir rien à foutre de leur avis, parce qu'après, ils vont être en mode « let me in », tu vois, et il y a vraiment ce truc-là.
Le meilleur moyen de faire venir des hommes à une réunion féministe, par exemple, c'est de dire qu'elle est interdite.
Exactement.
Ou à une marche féministe. Ouais. Hey, les gars, vous êtes tout le temps interdites de toutes les marches féministes.
Tellement d'égo.
Ouais, ouais, mais c'est surtout, hein, ils sont élevés à ne pas respecter et à ne pas avoir de considération pour justement, tu vois, le côté très docile, très doux, très pédagogique, parce que vraiment, encore une fois, pour eux, c'est lié au féminin et ça les intéresse pas. Alors que si tu leur dis, genre, à toi de me prouver qu'elle est hétéro, tu nous dis, vas-y, moi je suis un homme hétéro, ok, d'accord, pourquoi tu tapes ta meuf, pourquoi t'en as rien à foutre du féminisme, vas-y, à
pourquoi
toi de nous prouver,
avec tes potes mecs, voilà. Si t'aimes tant les femmes, et tu veux regarder des films, pas où il y a des filles de mecs dedans,
ouais. Que voilà. Des mecs musclés qui font des courses poursuites en voiture.
Hétéro.
Et voilà, ça veut pas dire non plus que tous les mecs sexistes sont gays, mais juste en mode, questionne-toi en fait. Ouais. Et en fait, d'arrêter d'être dans cette posture où on leur court après pour essayer d'obtenir une validation.
Ça reste dans le sens du poil.
Voilà.
De leur poil viril, qu'ils ont le droit de garder.
Parce qu'en fait, c'est super fatigant, épuisant, et c'est une stratégie en fait de domination, de ce truc de ils restent assis dans leur fauteuil bien confortable et vas-y, convainc-moi. Non, toi, convainc-moi que t'es hétéro. Toi, convainc-moi que t'aimes les meufs, vu que tu le cries sur tous les toits, mais après, t'en as rien à foutre de lutter pour leurs droits, donc let's go. Et je trouve que ça. Il y a quelque chose qui donne vraiment un sentiment de pouvoir et de lucidité dans cette démarche-là, tu vois.
Mais d'ailleurs, est-ce que t'as déjà demandé, parce que je me rends compte, je crois que j'ai jamais demandé à quelqu'un, vas-y, convainc-moi que t'aimes les femmes. Ouais. T'aimes quoi chez les femmes et tout? T'as eu ces discussions avec des gens?
Ouais.
Avec des mecs?
Ouais.
Ils disent
quoi? J'ai fait des entretiens, ils bug énormément. En plus, j'ai fait des entretiens...
Il y a ça dans ton livre, il y a une partie qui parle de ça, il me semble. Et ils savent pas quoi dire?
Non.
On est d'accord?
Surtout parce qu'ils savent... en plus, ils ont un peu peur, tu vois, que je vois ça comme sexiste ou quoi.
Oui,
mais
si tu dis elles sont belles, s'il répond parce qu'elles sont belles, elles sentent bon.
Mais ils le disent, hein.
J'allais dire, c'est sûr qu'ils répondent ça.
Mais oui, ils répondent ça. Hein. Et en plus, j'ai essayé de faire
elles
un peu...
Douces, elles sont douces, elles sentent bon.
C'est pour ça que... que personne ne nous aime, c'est ça.
Mais j'ai essayé en plus de faire un peu la distinction entre les mecs pro-femmes et ceux qui n'étaient pas, tu vois. Et en fait, c'était assez intéressant parce que les mecs pro-femmes, ils allaient être en mode...
Donc pro-féministes,
ouais.
Alliés, enfin qui se considèrent alliés à la cause féministe.
Ouais, c'était intéressant parce que eux, dans leur réponse, ils disaient « Bon, j'aime les formes, les meufs, comment elles sont gaulées. » Mais aussi, je trouve qu'elles écoutent bien. Elles sont vachement attentives, on peut avoir des vraies discussions. Ouais. Donc ce qu'ils aimaient bien, c'était d'avoir un travail de care gratuit, psychologue gratos pour eux. Et alors que tu vois, quand je posais la question à des meufs bi ou lesbiennes, c'était genre l'intelligence, la finesse d'esprit, qu'elles sont bien gaulées. Hein. J'aime les formes de femmes et tout, tu vois, il n'y a pas de honte à dire qu'on peut trouver une meuf belle, même de la regarder d'un point de vue sexuel, c'est pas forcément sale, c'est ce que t'en fais après et le respect envers la personne, tu vois. Mais du coup, t'avais du coup les meufs lesbiennes et bi, elles étaient là, les meufs sont belles, mais elles sont aussi intelligentes, elles sont drôles. Ça, le fait de trouver les femmes drôles, je n'ai eu cette réponse par aucun homme, j'en ai encore interrogé une cinquantaine, et chez les meufs, c'était vraiment un des trucs qui ressortait le plus. Donc c'était assez marrant, en fait, tu vois, il y avait ce truc d'un côté, je vois pas les genres, Et en même temps, je voyais juste qu'elles sont bonnes. Et en même temps, je sais pas quoi dire de plus. Tu vois, il n'y avait pas cet intérêt, en fait, pour comment les femmes peuvent développer, je sais pas, des stratégies, une forme d'humour par résistance, tu vois, au patriarcat qui peut être particulière et séduisante. Ça, c'était une des considérations qui n'étaient absolument pas présentes, malheureusement.
Et en vrai, quand on lit ton livre, du coup, on ressent un peu de pitié, de tristesse pour ces mecs-là, en se disant, mais bon sang, mais ils se coupent de tellement de trucs méga intéressants. En fait, à vouloir traîner que entre mecs, c'est pas que les mecs sont pas intéressants, mais juste, ils se coupent de la beauté, de l'esprit féminin. Après, là, c'est extrêmement genré, évidemment, en vrai, le spectre est plus large que ça. On n'est pas femme ou homme, enfin, on est... C'est plus fluide, mais globalement, vraiment, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, mais donc, en tout cas, pour les mecs basiques, qui sont éduqués dans la haine et le rejet de tout ce qui est féminin, ils se coupent de tellement de choses. Ils se coupent de réfléchir à comment ils s'habillent, de mettre une petite crème, de prendre soin d'eux, de réfléchir, de parler de leurs sentiments, d'avoir plein d'amis de genres différents et de pouvoir avoir des types de conversations différentes.
Et artistiquement, ils se privent de plein de films, de plein de séries, parce qu'il n'y a que des meufs sur la vignette, quoi. C'est vraiment
Non, ça doit être pour les filles, du coup, ça ne m'intéresse pas. Mais qui te dit que ce n'est pas intéressant?
C'est ça. Tant de choses et de tant de richesse de ce que peut apporter le genre opposé, enfin ce que tu imagines être le genre opposé à toi. Ils se privent de tant de choses et nous,
alors nous,
au final,
on s'en priverait bien de
oui,
richesse. Bah,
maintenant, on commence à faire un rejet parce qu'on a compris que l'homme en tant que système était un problème et était notre prédateur. Donc évidemment, nous, féministes, radicales et en colère, on s'en éloigne un peu, mais à la base, nous, on grandit au contraire dans l'adoration. Ouais. De ce qui est masculin. Dans c'est trop stylé d'avoir que des amis mecs, c'est trop stylé de traîner avec des mecs, c'est pas grave d'être un garçon manqué, c'est un peu cool, enfin tu vois, de t'es marrante pour une fille, enfin tu vois, de
d'être la seule qui est drôle dans la bande.
Voilà.
Ouais.
On grandit avec toute la pop culture qui était extrêmement masculine, faite, réalisée avec des hommes.
Viril.
Et du coup, on grandit avec en fait finalement la richesse de prendre ce qui est bien dans le masculin. Ce qui est pas bien aussi, hein, malheureusement, on le subit. Et tout ce qui est bien dans le féminin. Enfin, nous, en grandissant, on se rend compte qu'on aime trop traîner. Enfin, moi, en tout cas, je vais parler en mon nom, mais c'est un truc partagé, je crois, par pas mal de mes potes. C'est j'aime autant traîner avec des mecs qu'avec des meufs. Enfin, j'apprécie, je trouve plein de choses chez les hommes et chez les femmes. Et eux, ils se coupent de tout ça, en fait.
Mais je trouve que c'est important de quand même nuancer sur les différents types de masculinité. J'en parle dans le livre. Parce que dans le Boys Club, il n'y a pas tous les hommes. Et ça, c'est intéressant de comprendre qu'il y a une compétition où les hommes vont se séparer des femmes et les dénigrer entre eux. Peu importe qui ils sont, des fois, ils vont trouver des complicités. Tu vois, tu peux avoir des fois des mecs d'extrême droite qui vont s'arranger avec des mascus noirs, par exemple. Et d'un coup, ils vont trouver un terrain d'entente alors que le reste de l'année, ils vont s'éclater. Mais la priorité de classe d'hommes, des fois, va l'emporter sur le racisme, tu vois, Anne, c'est petit point comme ça que tu le vois, mais du coup, t'as genre la masculinité hégémonique, donc là, c'est les hommes les plus valorisés, hommes blancs, hétéro, cis, bourgeois, etc. Ensuite, t'as la masculinité complice, donc eux, ils rentrent pas vraiment dans le package complet, mais ils pensent pouvoir arriver à être intégrés dans le boys club s'ils lèchent les bottes de ceux qui sont dans le boys club, tu vois. Donc, ils vont être complices et entretenir le système. Ensuite, t'as les masculinités subordonnées, donc là, ça va être par exemple un mec gay racisé ou un mec en situation de handicap, etc. Donc, lui, il est pas dans le boys club et il grandit un peu dans le ressentiment de je suis dans cette classe homme, mais qui ne me reconnaît pas vraiment, mais je ne suis pas non plus une femme, etc. Et t'as ensuite les masculinités marginalisées, donc là, qui peuvent, où la virilité peut être vue comme une menace, un danger. Et n'est pas du tout un atout. Donc par exemple un mec noir sans papier qui habite sous les pompes, bah là par exemple on voit qu'il va être en plus présenté comme une menace contre les femmes blanches et il ne tire pas les avantages du patriarcat. Donc ça, c'est intéressant de voir que dans le boys club c'est aussi un noyau dur et qu'on est conditionné à essayer de s'intégrer à l'hégémonie alors qu'en fait le système est un peu plus compliqué que ça dans sa globalité, quoi.
Et c'est possible de dire non. Voilà. Et c'est possible quand on est, notamment là, par rapport à ton classement, dès la deuxième, c'est-à-dire dès les masculinités, t'as dit...
Complice.
C'est possible d'arrêter d'être complice, en fait.
Oui.
C'est aussi en ça où je trouve... évidemment que t'as raison, et je pense qu'il faut pas qu'on fasse des ouvrages ou des créations à destination des hommes tout le temps, parce que de toute façon, ils nous lisent pas. Mais dans l'idée...
Oui.
Ce serait pas mal que ça puisse atteindre non pas la masculinité hégémonique, comme tu disais, si je fais un livre sur la bourgeoisie, que Bernard Arnault lise, je pense que ça sert à rien, c'est foutu. Enfin, lui, il est de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Mais il y a peut-être des gens, voilà, qui sont dans un espèce d'entre-deux. Nous, on dit souvent ça, c'est souvent ces gens-là qu'on a envie d'atteindre.
Bien sûr.
Nous, les fachos à l'extrême droite ou les gros mascus, on les atteindra jamais, on s'en fout, ils vont camper sur leur position, ils vont pas nous lire, ils vont pas nous prendre au sérieux de toute façon. Mais
Les gens, ouais, tu veux pas faire un débat avec Julien Rochdy comme tout le monde nous demande?
Non, mais je vois pas l'intérêt. Même juste pour le numéro qu'il ferait, lui, il ferait son numéro. Et en fait, même si au fond, il pense pas ça, il va faire son show. Donc ça m'intéresse pas. En fait, je suis pas ton guignol, je suis pas là pour que tu fasses ton show.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais des gens, par contre, dans un entre-deux, qui sont complices, et d'ailleurs, ça me fait un petit peu penser au livre de Thomas Messias qui s'appelle « À l'écart de la meute », qui parle, lui, de son point de vue, d'homme blanc, justement, qui a voulu fort s'intégrer au Boys Club et qui a été dans la moquerie véhémente envers les femmes pour s'intégrer au Boys Club. Et un jour, il dit « Mais en fait, ça me va pas du tout, je suis malheureux. » Ben oui, et du coup, il fait un demi-tour complet et non, en fait, il veut plus faire partie de ça.
Mais carrément. Mais c'est super intéressant, mais parce que effectivement, comme le dit Thomas Messias dans son livre, il y a plein de mecs, tu vois, qui sont dans la masculinité complice, qui voient qu'il y a pas grand chose pour atteindre le Boys Club, et du coup, ce qu'ils veulent, c'est pas renverser le patriarcat, eux, c'est enlever l'écart entre masculinité complice et masculinité hégémonique, parce que ce qu'ils veulent, c'est être considérés et pas méprisés par les hommes tout en haut de la chaîne. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec plein de profèmes et tout, qui du coup sont des mecs souvent qui arrivent pas à s'inscrire dans la masculinité hégémonique, mais par masculinité hégémonique, c'est genre Macron, la masculinité hégémonique. C'est pas un mec qui va à la salle tous les jours et
sûr,
tout. Et du coup, eux, ce qu'ils veulent juste, c'est supprimer ce petit mépris-là entre les deux. Mais ils vont te faire genre, ouais, moi je suis super féminine, je déconstruis ma masculinité et tout. Non, tu veux juste être au top de la chaîne alimentaire et tu nous fais croire que. Après, attention, pas non plus en mode tout le monde pense comme ça et tout, mais juste faut être méfiant parce que des fois, c'est des stratégies du dominant pour se remettre un petit peu au top de la chaîne, quoi.
Ça pourrait vouloir dire que tous les mecs qui se définissent
qui cherchent à déconstruire
sont en fait juste en fait effectivement j'ai du mal à capter en quoi parce que autant je le sais, c'est-à-dire au quotidien on voit les mecs qui nous en fument et qui en fait se servent finalement de tous les codes du patriarcat et écrasent encore les femmes autour d'eux etc mais en criant leur pro-féminisme ou leur anti-virilisme. Mais par contre j'arrive pas à comprendre en quoi ça va les aider à atteindre la masculinité hégémonique.
Bah c'est comme Thaïs Descuffon qui est persuadée qu'en étant la plus mascu du monde et anti-femme, elle va être la pote des gars.
Non mais juste tu restes sur le devant de la scène, ça devient un peu une DA, tu vois. Et c'est là où tu vois toute la différence. Par exemple Thomas Messias, il a un boulot à côté, c'est pas et même s'il a une émission et tout, tu vois, genre et puis surtout il est journaliste, donc son but c'est quand même de s'intéresser à ce que les autres font. Pour moi, il y a quand même une grosse nuance, donc il va mettre en valeur d'autres travaux, pas que les siens.
Ça, c'est fou.
Alors que tu vois, t'as d'autres personnes dont ça va être la possibilité de travailler avec des marques et des gros budgets parce qu'ils représentent quelque chose de un peu féministe et progressiste, mais pas trop subversif, etc. Et eux, tu vois, vont du coup capitaliser dans le sens où ils vont avoir des gros contrats, un nom qui se fait et qui est en fait une espèce de, pas une direction artistique, mais un truc qui les différencie des autres mecs. Tu vois, c'est un peu comme Timothée Chalamet. Mais ils se ressemblent tous, tu vois. Tous ces acteurs, tous ces mecs, lui, il est fils d'eux, il est la masculinité hégémonique plus, hormis le fait d'être juif, mais sinon, il a toutes les cases, tu vois. Et du coup, le fait de jouer sur ces codes qu'il maîtrise parfaitement parce que ses parents sont dans l'industrie et tout, le petit Donu, ça va faire parler de lui, ça va le distinguer des autres mecs, ça va aussi cacher les meufs qui, à la base, pourquoi les meufs en font des tonnes avec les tenues et tout, c'est parce que ça permet de ramener l'attention sur elles, vu qu'elles sont juste ramenées à leur corps, tu vois.
Okay, ça permet... pique un peu l'attention.
Exactement, il pique l'attention et il reste au top.
Sur des vêtements qui sont censés être féminins, et où sur lui c'est stylé comme tout.
Comme les mecs qui mettent du vernis. Pique l'attention, on se dit « Ouais, trop stylé, vous déconstruisez. »
Bah, en fait, non. Bah, ça dépend lesquels, du coup. Parce qu'il y en a qui le font.
Non, mais justement, parce qu'il... Je comprends grave l'idée de se méfier, en tout cas. Je trouverais ça trop facile de se dire que n'importe quel mec, enfin, tu vois, si, dès lors qu'il met du vernis, on se dise « Ouais, c'est bon, t'es un allié. »
Mais par contre, en creusant, tu peux assez vite capter que le mec emporte parce qu'en fait il s'est dit mais moi j'aime bien depuis que toujours et j'ai pas osé parce que c'était censé être pour les filles et
c'est
le
mec qui va dire
oui j'emporte mais enfin oui mais de toute façon
Après, non, mais c'est toujours comme ça. C'est en fait qui a gagné à quoi. Et souvent,
on les voit.
C'est ça.
En fait, on vous voit. On le sait. On le sait qui vous mettez en avant dans vos contenus. On le sait, les gens qui se font passer pour les plus grands alliés, etc. En fait, on vous capte. On le sait.
En fait, le truc, c'est vraiment qui, du coup, va faire ça pour redistribuer, tu vois, ou qui va faire ça pour garder l'attention, tu vois. Par exemple, les mecs pro-femmes qui vont jamais repartager une meuf, qui vont jamais repartager un contenu queer, qui vont jamais faire en sorte que leur argent, ils retournent à des assos.
Et que toi, voilà, t'as partagé leur contenu à eux.
Moi, je trouve que ça se voit aussi à comment ils parlent d'eux. C'est-à-dire que s'ils parlent d'eux juste pour comment les autres les voient dans la société, et qu'ils sont là, moi, je correspondais pas aux cases de la société, alors que en fait, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est pas pareil que quand ils parlent d'eux pour dire, moi, j'ai eu ce comportement-là auquel j'ai réfléchi en lisant tel ouvrage, grâce aux meufs de mon entourage. Enfin, en fait, il y a aussi la manière justement de se présenter et de revenir à soi, mais pas de revenir à soi pour faire sa victime et pour dire la société, moi aussi, je suis une victime de la société, alors que t'es un mec blanc hétéro cis et que t'es en haut de l'échelle, hein, que tu le veuilles ou non. Surtout si par exemple t'es aussi un peu riche, c'est pas pareil que de le dire en mode malgré le fait que je sois un homme, enfin, ou justement parce que je suis un homme cis blanc, la société me traite comme ça, mais ça n'est pas normal. Enfin, bref.
Là, tu parles d'un style de mec dont on pourrait avoir plusieurs exemples. Mm-hmm. Ça n'empêche qu'ils ont un succès fou, ces gars-là. Donc, c'est pas juste on vous voit, nous, vrai, on vous voit, toi, on les voit, mais ça les empêche pas d'avoir 500 000 personnes qui les suivent et qu'ils ont fumé.
Mais parce que les gens aiment trop la nuance. Mm. Les gens sont trop fans de la nuance. Et donc, les gens ont beaucoup plus de facilité à aller suivre un homme qui se revendique féministe, doux et féministe. Ils vont, parce que déjà, on vient de l'expliquer tout à l'heure, hyper longtemps.
On en voit pas beaucoup, donc.
Déjà, les hommes ne suivent pas de femmes. Donc en fait, les hommes sont suivis par les hommes et les femmes. Mmh. Les femmes ne sont suivies quasiment que par des femmes. Même si là, dans les gens qui nous écoutent, il y a des mecs. Coucou,
sauf Thaïs Descuffon, je pense qu'elle est suivie principalement par des hommes.
Et oui, encore, elle est suivie pratiquement par des hommes.
Thaïs Descuffon, le jour où elle écrit un livre, je mets au défi de regarder qui va l'acheter. Je suis pas sûre qu'il y aura beaucoup d'hommes qui vont aller dépenser 25 balles dans un de ses livres.
Bah non.
Ils vont pas forcément lui donner de l'argent pour autant. Donc, les hommes sont suivis par les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, on est encore malheureusement dans une société où se revendiquer féministe, c'est pas encore toujours bien vu. Et alors, féministe radical, laisse tomber, c'est encore trop pour plein de gens. Donc en fait, ils vont préférer quoi ? Ils vont plutôt aller suivre un homme qui se revendique féministe, qui va leur faire un contenu extrêmement mainstream, qui prend en fait pas tellement part au combat antipatriarcal et surtout pas au combat anticapitalisme, anticapitaliste. Et du coup, c'est plus facile pour ces gens d'aller suivre ce type de contenu que d'aller vers un contenu franchement radical par de.
Non, on en revient à c'est plus facile du coup.
Ouais,
c'est plus simple quoi.
Mais puis il y a une sorte de. Lui, va. Par exemple, tu vois, ces contenus-là, ils vont mettre tout sur le même plan. Genre, c'est la symétrisation. Ils vont dire, les hommes aussi souffrent du patriarcat et les femmes aussi. On est tous main dans la main et on a tous intérêt à.
La nuance, l'égal. Enfin, en fait, comme ça, on est tous des humains, merde.
Mais c'est Alice Coffin qui dit très justement que la neutralité, c'est l'objectivité du dominant. Ah. Et ça se retrouve à fond, en fait. C'est exactement ça.
On dit toujours, la neutralité, c'est être de droite. C'est être réac.
Oui, c'est ça. Un média, d'ailleurs, qui se présente média neutre, généralement, c'est qu'il n'est pas très neutre.
Et puis en plus, c'est une forme de sexisme ou LGBTophobie crasse que de croire que nous-mêmes, on n'est pas capable de nuances et que nous-mêmes, on est tous d'accord. On serait une entité où il y aurait une féministe sur Terre,
en fait, la radicalité, une personne trans. C'est très nuancé aussi.
Oui, et qu'en plus, on n'est pas tous d'accord parce qu'on a tous une manière de voir les choses, un prisme, une subjectivité, et que, croyez-moi, qu'on sait se critiquer entre nous, on sait débattre. Voilà, ne vous inquiétez pas, la gauche, c'est peut-être sa spécialité.
Mais en vrai, après, on passera à autre chose, mais parce que c'est souvent remis en pointé du doigt, ça, le fait que les féministes se tirent dans les pattes, que la gauche se tire dans les pattes. Moi, ma petite théorie sur le sujet, c'est qu'on a des valeurs tellement ancrées qui nous brûlent le ventre tellement que forcément qu'on a envie de les porter le plus fort possible. Et
qu'il y a plein de solutions pour le faire, donc qu'on a du mal à se mettre d'accord.
Bien sûr. Mais c'est parce que je suis persuadée qu'on a des valeurs beaucoup plus profondes. Mmh. Moi, je pense que j'ai plus de valeurs que Macron. Enfin, pas de valeur, genre.
Oh, wow, on va prendre juste cette phrase. La sortir.
Non, mais tu vois ce que
je pense que j'ai plus de valeur que Macron.
des valeurs et des croyances, des combats que je porte, qu'un mec qui est le produit des labos pharmaceutiques et des banquiers. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Bien sûr.
Lui, ses valeurs, c'est faire de l'argent et j'en sais rien, tu vois. Enfin, donc.
Et évidemment que du coup, les fachos, ils s'entretuent moins entre eux.
Et c'est ce que tu disais
tout à l'heure. Ils sont moins pas d'accord parce qu'ils sont d'accord pour une chose, c'est qu'ils aiment personne.
Et surtout, c'est là où je trouve qu'on voit qu'ils portent moins leurs valeurs en mode ça leur fait mal au ventre. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'un facho peut se retrouver avec un masculiniste noir dans la haine des femmes. Or, moi, justement, je ne me retrouverai jamais. Et pourtant, Dieu sait que les masculins, ils essayent de nous rendre racistes en disant hey, n'oubliez pas, qui vous viole, c'est que des étrangers. Bon, évidemment, c'est faux, mais voilà. Mais eux, ils essayent de nous récupérer comme si c'était possible. Mais non, on n'ira jamais parce que nos valeurs, elles nous portent beaucoup plus, nous.
Bien sûr.
On va pas baisser notre froc parce que. On se retrouve peut-être sur un point, et en plus, ce point est faux.
On a un petit peu de temps pour passer au bol à questions, voilà, qui sont ces
tout petits.
Ils sont adorables. On a des petits bols à questions, des questions deep, des questions chill.
Je pioche, c'est ça, ou donc, on pioche chacune?
Non, tu pioches, tu réponds. Si on veut répondre aussi, on répond. Sinon, on fait pas.
Allez.
Nous, on fait ce qu'on veut, on est libre.
Ton crush de la shame? Ouais, j'en ai pas. Moi, je suis nulle pour crocher. Non, c'est vrai.
Ça,
en plus,
on a ça chaque fois. Apparemment, ton crush de H&M.
Ah si, quand j'étais jeune, je crochais sur Panayotis Pasco, mais j'ai croché sur beaucoup de mecs.
Attends, mais quand elle dit quand j'étais jeune, moi, quand j'étais jeune, Panayotis Pasco, il était pas né.
Il est bien mouillé. Mais en fait, j'en ai parlé avec beaucoup d'amis. Bah,
attends, mais c'est pas un crush de la honte, il est trop mimi.
Non, il est chou, tu vois, mais je sais pas, moi, il a une barbe maintenant, donc du coup, je croche plus trop, tu vois.
Tu l'aimais quand il avait 18 ans.
Oui, qui ressemblait à une bouche, quoi, voilà, disons les termes. Non, mais c'est vrai, disons les termes. Et beaucoup de lesbiennes ont eu des...
C'est
vrai ? Bah oui, mais c'est marrant, on se reconnaît entre nous, même sans savoir. Bref, passons.
Donc Panayotis Pasco, elle veut vite passer à la suite.
Attends, et toi, t'avais dit quoi comme crush de la shame ?
Je croche un peu sur Vianney. Je suis une merde, Je sais
pas
pourquoi.
Bon, ça va y être pire.
La flemme.
Bah, en fait, je le trouve adorable. Je le trouve adorable.
C'est ton Panayotis Pasco.
C'est mon petit Panayotis à moi. Je le trouve adorable.
Le côté cato tradit.
Mais
je sais
pas. Ouais, bah peut-être.
On va aller à la messe.
Envie de le salir un peu. Non, même pas. C'est même pas en mode justement. J'ai envie de le décoiffer et on écoute du métal. Non, non, je l'aime bien comme il est. Je l'accepte tel qu'il est.
Alors la question deep, c'est ta plus grande source de stress. Moi, je crois que c'est la thune. Je sais pas vous, mais moi je crois que c'est vraiment la thune, vraiment le complexe de la classe moyenne, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les sociologues, de ce truc de je vais me retrouver sans rien, demain tout peut s'arrêter, et c'est vraiment une lutte anxiogène, donc j'essaie de... Parce qu'en plus moi c'est ma famille, tu vois, ce truc de nous on s'est sortis des classes ouvrières, faut que t'ailles encore plus haut, encore plus loin, faut que t'aies le CDI, le truc, le machin, et j'ai vachement de mal à me départir de ça, et j'essaie un peu de lâcher prise et tout, surtout bah, je sais pas où, mais bon, on fait des métiers où les revenus, les rentrées d'argent sont extrêmement aléatoires et pour l'instant pas très conséquentes, mais du coup j'essaye de me dire
quoi, ça
veut
dire qu'écrire un livre ça rapporte pas d'argent?
Non, contrairement à ce qu'on peut croire,
pas du tout.
Et voilà, mais ça j'essaye de m'en défaire parce que en vrai faut se dire ça vient, ça part. En plus moi ça me dérange pas de vivre avec 900 balles par mois, tu vois, genre j'arrive à me stabiliser, mais t'as toujours cette petite anxiété qui reste.
Ça, je trouve que c'est vachement lié effectivement à l'éducation. Enfin, moi, j'ai l'impression que le rapport à l'argent est beaucoup lié, sans ramener toujours tout à notre famille, à nos parents, mais en vrai, le rapport à l'argent... Enfin, dites-moi, mais moi, je sais que j'ai à peu près le même que mes frères et sœurs. Enfin, genre, on est à peu près dans la même façon de gérer notre budget et tout. Vous êtes différent par rapport... Je sais pas si t'as des frères et sœurs, Léane, mais toi...
Si j'ai deux petits frères.
Mon frère gère plus mal son budget que moi, je crois.
Donc c'est pas, t'as pas l'impression que c'est un truc que vos parents vous ont transmis, votre manière de gérer votre budget?
Non,
pas spécialement.
Effectivement, on n'a pas souvent trop parlé d'argent à la maison. Et je dis pas ça parce qu'on en avait particulièrement, parce que je suis totalement de la classe moyenne, je crois.
Bah de toute façon, ça veut plus ou moins rien dire.
Ça veut plus ou moins rien dire.
En gros, tu t'étais pas méga riche, mais t'avais de l'argent pour avoir à manger tous les jours sur la table.
Jamais été propriétaire, enfin mais jamais galéré et toujours un peu parti en vacances. Donc voilà.
Oui, non, mais c'est une classe moyenne, mais une classe moyenne, il y a vraiment beaucoup trop de gens dedans qui ne vivent pas du tout de la même manière.
Ouais, c'est vrai.
Mais je pense que le genre intervient aussi là-dedans, où les meufs globalement, j'en ai parlé parmi, il y a avec pas mal de potes, où les meufs globalement vont être quand même plus sérieuses avec l'argent, les petits jobs et tout, machin, alors que les mecs vont être plus grand ado, plus de facilité à demander de l'argent à papa, sans avoir honte, ouais, vraiment. Mais moi, cela dit, mon autre frère, il est très, vraiment, genre, il compte chaque sou et tout, et le plus petit, il a eu une éducation assez différente et tout, il est arrivé plus tard, et lui, freestyle, quoi. Genre.
Ok, donc pour vous, vous n'êtes pas tous de la même manière, quoi.
Mais je pense qu'il y a eu quand même
vous n'avez pas transmis trop la même façon de faire.
Ouais, mais je pense qu'il y a eu quand même sur nous trois, ce rapport un peu de faut que tu débrouilles très tôt, très jeune, que tu sois indépendant, tu reviens pas à la maison, tu demandes jamais d'argent. Enfin, il y a quand même un truc commun.
Non, mais moi aussi, enfin, si j'ai voulu partir de chez moi à 18 ans, c'était qu'il fallait que je me paye mon loyer. Enfin, je veux dire, sans négociation.
bah j'ai, moi j'ai voulu partir de chez mes parents à 18 ans en étant, ah oui je précise pardon, j'ai grandi en banlieue parisienne donc je pouvais continuer de faire mes études à Paris tout en restant en banlieue parisienne, mais je voulais pas être chez mes parents, donc à 18 ans j'ai bougé, mais c'était sous prétexte que, enfin sous condition
que tu payes ton propre loyer,
que je me paye mon propre loyer, donc je faisais
Alors
rappelle je faisais cours Florent plus mon taf alimentaire là de resto, du coup j'étais active 60 heures par semaine pour pouvoir payer mon loyer, mais ça avait
et tu penses que tes parents, enfin bah, t'es pas obligé de répondre, mais tu penses que tes parents t'ont dit c'est à la condition que tu payes ton loyer parce que en vrai ils auraient pas pu te le payer, ou parce que c'était pour t'apprendre un peu la vie,
enfin, les deux, ils auraient pas tellement pu. Et tu te débrouilles quoi, ils se sont débrouillés, je me suis débrouillée, et surtout c'est en fait, et surtout il y avait vraiment un truc de kiff et de confort d'aller à Paris en coloc avec mon pote à 18 ans,
parce que,
parce que moi je pouvais vraiment rester chez mes parents, ce que mon frère a fait un petit peu plus longtemps, et ce que certains de mes potes ont fait plus longtemps, enfin tu vois, moi
en même temps Minette elle veut trop être sur nous là, elle passe de jambe en jambe,
c'était à 20 minutes de RER quoi, je pouvais le gérer,
oui,
donc j'avais envie d'être, c'était mon choix quoi.
Ouais, elle est bavarde. Elle est bavarde. Elle est très bavarde mignonne.
Comme tout, elle a plein de trucs à dire sur le patriarcat.
Non, mais j'adore.
Donc, tu vas mieux, tu stresses moins sur l'argent, ou
bah,
non, tu sens que c'est très ancré
en toi,
quoi.
C'est encore par à-coup, tu vois. Là, en ce moment, bah, c'est vrai que je sais pas du tout, mais genre vraiment à 3 mois, je sais pas comment je vais gagner ma vie. Du coup, mais j'essaie vraiment de lâcher prise et d'essayer de me dire que je trouve toujours une solution. Parce qu'en vrai, depuis que j'ai 18 ans, pareil, j'ai plusieurs jobs, j'ai remboursé mon prêt étudiant toute seule. Enfin, je me débrouille, tu vois. Donc, essayer de se faire confiance aussi, je pense qu'il y a un espèce de truc de tu vas t'en sortir, tu vas trouver des solutions, ne t'inquiète pas, quoi. Voilà, mais ouais. Puis c'est vrai en plus que quand t'es lesbienne, t'as toujours ce truc de bah, ma meuf elle a beau travailler, elle est aussi précaire et en 2 salaires de meuf, bah ça va moins vite. Il y a un mec pour de vrai qui m'a fait bah, là parce qu'on lance des vidéos avec Manifesto 21, et j'ai un mec qui me suivait depuis longtemps, qui était venu à une rencontre à Lyon et qui m'a dit t'as besoin de quoi comme matos, et il m'a livré le matos dont j'avais besoin. Donc ça m'est arrivé quelques fois, tu vois, d'avoir des vrais alliés, des vrais mecs capables, et en plus il m'a dit tout de suite genre je veux pas que tu donnes mon nom ou que tu parles, parce que que tu le mettes, tu vois, dans les remerciements ou quoi, parce que c'est ma façon de participer au truc. Et tu vois, il y en a quelques-uns, mais à quoi tu les reconnais ? À je me rends utile en fonction de tes besoins, et pas je vais t'expliquer la vie pour ton projet, et je suis là en aide, quoi.
Titre. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir, mais on l'a sûrement déjà dit, mais je trouve il n'est pas de trop de le redire, parce que donc, il y a des hommes qui nous écoutent, il y a des hommes profèmes, enfin, des hommes alliés qui nous écoutent, des vrais en tout cas, qui se considèrent comme de vrais alliés et qui savent pas comment faire, comment aider, puisque faut pas prendre notre place, puisque faut pas marcher à notre place dans les manifs, bah donner de l'argent.
Oui,
on le dit, sûr. On le redira, c'est-à-dire effectivement ça passe par acheter des contenus créés par des femmes, parce que ça va les aider à vivre, et pas forcément J.K. Rowling, parce que déjà je pense qu'elle a pas besoin d'argent, bon, en plus j'ai pris l'exemple d'une transphobe donc c'est une catastrophe, mais je veux dire tu vois, ça passe pas par acheter forcément les trucs des meufs les plus connues et donner de l'argent à des assos, participer, enfin en fait c'est aussi là où on voit une vérité dans comment tu peux agir à ton échelle. Bah si t'as des moyens, donne de l'argent à des assos, fais des dons, fais des... Et vraiment, ce sera tout à fait utile. Beaucoup plus que si tu veux crier un slogan à notre place pendant une manif.
Oui, clairement. Voilà. Et puis après, faire les tâches ingrates aussi, pouvoir donner un coup de main, je sais pas si vous savez coder, de proposer des services, ou voilà. Mais du coup, mettre à profit des compétences qui te mettent pas sur le devant de la scène, je pense que c'est ça. De la même façon, au bout, c'est valable pour toutes les causes, quoi.
Bien sûr. Eh bien, nous approchons de la fin du podcast, mais avant de se séparer, on va quand même prendre un petit temps pour se faire des petites recommandations ou des... Attention, ne regardez surtout pas ça, c'est nul.
C'est l'inverse de recommandation.
C'est l'inverse de recommandation.
Voilà, d'une œuvre quelconque, un podcast, une expo,
une chanson,
un livre, un album. Quoi que ce soit qui t'aurait fait kiffer ou pas kiffer dernièrement. Et donc
qui t'aurait fait des émotions.
Et le temps que tu réfléchisses, si tu veux.
Oui, je vais prendre mon portable parce que je retiens pas les choses.
Je peux commencer, comme ça je m'énerve un petit coup et après on passe à la suite. Voilà. Ce week-end. J'étais pas méga en forme, voilà, ça arrive des fois, je sais pas, en mode meilleur mood et tout, je me dis bon je vais aller au cinéma, j'avais plein de films qui me donnaient envie et je me dis bah je vais aller voir un film plutôt joyeux où je sais que je vais un peu me marrer, ça va être léger, ça va être cool. Donc je vais voir le dernier film de Toledano et Nakache qui s'appelle Une année difficile.
Ouais.
Bon bah je vais faire un petit jeu de mots, j'ai passé un moment difficile devant ce film, hein, vraiment. Bon, si vous les connaissez, Toledano et Nakache, c'est ceux qu'on fait Nos jours heureux, qui est un de mes films cultes sur les colonies de vacances. C'est ceux qu'on fait Intouchables ou Hors Normes récemment, qui parlait des autistes.
Il était bien, Hors Normes, non ?
Bah, dans mes souvenirs, il est bien. Après, je ne suis pas concernée par le sujet, donc je ne sais pas si les personnes concernées trouve qu'il est bien. Mais en tout cas, moi, j'avais plutôt
j'avais
bien
eu l'impression qu'il était bien reçu.
Mais... Et je crois qu'il était bien reçu et qu'ils étaient plutôt bien renseignés.
Ouais.
Et là, ce qui est fou, c'est que donc, dans une année difficile, ils mettent en parallèle deux gars qui sont surendettés, donc un peu la classe, classe populaire
d'une trentaine d'années, on va dire.
Bon, c'est Pio Marmaille et Jonathan Cohen, donc ils ont plutôt 45 plutôt. Piges. Mais...
D'accord, ok.
Ils ont 40 ans.
Non,
quoi.
Mais c'est ça aussi qui m'a étonné dans le pitch, qu'ils soient si vieux. Bref.
Non, ils ont 40 piges. Bah ouais. Non, surendettés, c'est plutôt des.
Ah, c'est pas des jeunes, enfin des militants écolos ?
Non, c'est eux, c'est deux mecs d'accord. de la surendettés, qui font du coup que des magouilles, qui doivent de l'argent à tout le monde et tout. Et parallèlement à ça, du coup, ils rencontrent une jeune femme militante, enfin militante écolo, comme ils la trouvent belle. Et qu'il y a de la bière gratuite aux réunions de militants écolos, et bah, ils vont aller faire semblant d'être des militants écolos. Donc oui. voilà. Tu te dis, bah, intéressant de parler du militantisme écolo aujourd'hui. Ah, malheureusement, ils en parlent de la manière où ils ont tous des pseudos absurdes. Ils s'appellent Cactus, Quinoa, vraiment cette blague. Hein. Antilope et Pom-Pom. Ils mangent des chips de navets périmés dans leurs apéros ou des carottes crues. Enfin, vraiment, y a absolument... ils ont tous des grands appartements haussmanniens. En fait, c'est des Ségolène qui ont un peu un passe-temps de bourgeoise de d'être écolo en mytho. Elle a un appartement
en mangeant des graines.
Elle s'est juste dit je vais me débarrasser de tous les meubles pour faire de l'anticonsommation et du coup, ça soit par terre chez elle pour manger des carottes crues. Enfin, c'est bien simple. C'est le cliché boomer de ce que ta grand-mère pense qu'un militant écolo est. Voilà. Enfin, ta grand-mère, je dis. Ou ton oncle, ou j'en sais rien, tu vois, ton oncle.
Oui, boomer, oui, ma grand-mère.
Ouais, ou toi, par exemple, ta grand-mère. Donc, c'est uniquement ce cliché-là, on n'ira jamais vraiment plus loin. Voilà. Et parallèlement.
C'est pas
à
ce
ça...
cliché, attends, juste pour être sûr, c'est pas les deux mecs de 40 piges surendettés qui apportent ce cliché, c'est ils
non,
arrivent,
non. Ils
et
arrivent,
c'est comme
et
ça.
C'est comme ça.
Et c'est comme ça.
Le... Et donc, c'est non, hilarant. C'est
pas.
Hilarant parce que c'est comme ça. Alors, ils font quand même des actions. C'est calqué un peu, je crois, sur Extinction Rebellion ou les soulèvements de la Terre. C'est un peu calqué sur ça. Mais donc, ils font de vraies actions. Mais entremêlées. Enfin, déjà, c'est tout mélangé. Dans leurs actions, à chaque fois, les flics sont d'une gentillesse inouïe, ce qui est quand même.
Évidemment.
impensable quand tu sais comment, en fait, les militants écolos sont traités. Là, aujourd'hui, à l'heure où on tourne ce podcast. Hier, il y a eu une action...
Ce week-end,
il y a eu l'action contre l'autoroute A69 qui a été victime de répression policière énorme. Donc voilà, c'est un peu bizarre d'avoir en plus une présence policière et, douce. Enfin, tu vois, c'est trop curieux. Et en plus de ça, c'est-à-dire que ça ne traite pas l'aspect écologique. Je trouve ça d'un danger absolu en 2023 de prendre le temps de parler de ça dans un film, mais de le faire pour uniquement se moquer quand on sait qu'on va crever, que c'est vraiment... dangereux comme tout. Et parallèlement à ça, tu te dis, bon, bah au moins, ils ont peut-être creusé le sujet des surendettés, qui sont effectivement peut-être des gens qui n'ont pas le temps de s'intéresser à l'écologie parce qu'ils doivent payer leur fin de mois. Non, pas du tout.
Non,
c'est
mais
pas
c'est
creusé.
Difficile.
C'est uniquement décrit comme ah, toi aussi, ah oui, t'as eu le cercle vicieux de tu fais un premier prêt à la conso, un deuxième prêt à la conso, puis un troisième pour rembourser, puis après, pour rembourser tes prêts, t'as taxé de l'argent à ta famille. Oui, ah ouais, moi aussi.
Super.
Donc, on n'a pas d'empathie pour eux. C'est, moi, je trouve le film catastrophique. J'ai pas du tout passé un bon moment, je ne me suis pas du tout détendue. Les gens ont ri dans la salle, mais on rit parce que le gars s'appelait Quinoa. Vraiment, je me suis dit, putain, on rit encore de cette blague, c'est terrifiant. C'est un peu le qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour moi de l'écologie.
C'est ce que je te disais.
Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Effectivement. Donc je suis extrêmement déçue, je trouve
la
que...
flemme.
Et du coup, en fait, je reviendrai par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure dans le podcast. Pour moi, c'est un film qui se veut neutre, tu sais, qui prend pas trop parti. Bah du coup, c'est juste un film... extrêmement réac, de boomer total.
Oui.
Et je trouve ça dangereux de faire ça en 2023, ça me bute.
Bah franchement, ça c'est même bute. Pas qu'il se veut neutre hein, de vouloir nommer tous ces personnages écolos, Quinoa et compagnie, c'est pas neutre, c'est plutôt appuyé sur le c'est un peu des bouffons, lol.
Mais ça se voit, en fait, ce qui me gave, c'est qu'ils se sont pas renseignés. Et moi, à un moment où, en fait, l'incompétence masculine, ça me gave.
Ouais,
c'est-à-dire
nul,
que
en
vraiment,
fait.
Ces deux hommes qui se sont dit, on n'a pas besoin d'être renseignés, on va juste faire un film et ça va suffire.
Et c'est médiocre.
Pas
mais en fait, c'est ça, c'est qu'en plus, ils sont pas drôles.
Tu l'as
ils sont lourds. Non, mais je vois très bien quel genre de truc c'est. Et tu vois, genre, tu te dis, mais il y a tellement de gens qui ont pas de budget et qui ont des idées de ouf. Mais même des idées pour critiquer les écolos ou les féministes.
Sûr.
Moi, il n'y a pas de souci. Mais faites-le bien, faites-le de manière fine, intelligente, marrante. Là, c'est
et
juste.
Si vraiment, tu veux
nul.
Faire. Mais, et pour leur crédit, je me dis, si vraiment juste tu veux faire un film léger, parce que moi, c'est ce que je voulais aller voir. Je voulais aller voir effectivement un truc où, pour une fois, c'est pas forcément engagé, ça me fait pas forcément sur-réfléchir à tout. À la société, etc. Bah alors dans ce cas, ne prenez pas un sujet qui est aussi brûlant et aussi actuel. Ne prenez pas les écolos alors qu'on sait que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il y a des catastrophes absolues qui vont se passer. Ne prends pas ce sujet. Si c'est pour juste nous faire marrer sans t'y intéresser. Enfin, je comprends pas trop le choix de sujet. Voilà. Donc petit flop, hein, évidemment, je vous encourage pas à y aller. Si vous partagez vraiment beaucoup de nos valeurs, n'allez pas le voir, ça va vraiment vous énerver. Pour le coup, y allez pas.
Ok, moi j'ai un truc positif, un top. Je sais pas si vous avez vu Toute la beauté et le sang versé, qui est un documentaire qui est sorti en début d'année, qui a été vraiment pas mal salué par la presse et tout, qui retrace la vie de la photographe Nan Goldin et qui est sorti au cinéma ou sur une plateforme. Qui est sorti au cinéma et je pense qu'on peut le retrouver sur des plateformes maintenant et qui a été réalisé par Laura Poitras et franchement c'est magnifique. Donc j'ai écrit un article dessus sur Manifesto, c'est pour ça que je l'ai sous les yeux. Donc c'est une fresque un peu aux allures d'Odyssée grecque entre Nan Goldin qui est du coup une femme juive pauvre qui a vécu de l'inceste LGBT, etc., qui du coup est victime de la crise des opiacés aux États-Unis et donc elle commence à avoir du succès, à être exposée dans les plus beaux musées du monde, et donc elle va faire un peu un chantage au musée en mode si vous m'exposez, vous devez enlever le nom de la famille qui vend les opiacés à tout le monde et qui fait crever tout le monde. Et donc en gros, c'est t'as vraiment son combat qui est suivi entre une meuf qui représente vraiment genre David vs Goliath, eux où t'as jamais accès à leur intimité, où ils sont derrière des bureaux avec 50 avocats pour les gérer, etc., et comment elle maintient son combat. Ça aborde plein de choses, ça aborde comment elle s'inspire du VIH, enfin de la lutte contre le VIH dans sa propre lutte, parce qu'elle a vu beaucoup de ses amis mourir à cette période-là, donc on n'est pas épargné. Il y a violence masculine, violence conjugale, inceste, t'as genre que VIH, opiacés, enfin t'as vraiment pas oui, que oui, du fun, mais c'est beau, ouais, et c'est vraiment beau, tu pleures et tu ressors quand même avec plein d'espoir, enfin je sais pas, il y a un truc vraiment magnifique dans ce documentaire, franchement regardez-le. C'est un petit bijou, une vraie œuvre d'art, donc franchement c'est magnifique et c'est très beau, et on voit ses photos au fur et à mesure, on découvre son travail et sa vie, donc voilà, vraiment une
grande
pépite.
Tu vas pas nous spoiler, tu vas pas nous dire si elle a gagné ou pas,
je vous dis pas, mais franchement c'est un après il suffit d'aller sur Wikipédia, c'est une histoire vraie, ouais. Et aussi en top un ouvrage d'une copine, mais c'est vraiment parce qu'il est bien, qui va sortir en novembre, qui s'appelle Drag, et qui est un livre un beau livre, donc je pense qu'il va sortir à peu près quand l'épisode va sortir, et il est immense, donc ça, c'est le premier truc.
C'est un beau cadeau de Noël là,
c'est un super beau cadeau de Noël, parce que du coup t'as des magnifiques images qui retracent l'histoire des drags, et pas que des drag queens, des drag queer, des drag kings, des différents mouvements à l'intérieur du drag, donc le drag horrifique par exemple, dont on entend peu parler, donc tout avec la réflexion sur les monstres, etc. Et du coup il a été écrit par Apolline Bazin, qui est cofondatrice de Manifesto 21, le média dans lequel je suis, et elle a vraiment fait tout un travail de recherche historique très appuyé, quoi. Donc c'est à la fois un très bel objet à poser sur sa table, tu vois, et en même temps t'as une vraie histoire du drag qui t'est racontée, ce qui est et il y a pas de livre comme ça actuellement en France,
parce que j'ai vu que Nikki Doll, la présentatrice de Drag Race, elle sortait un livre aussi, Reine,
mais du coup qui est que sur les drag queens, mais
justement j'ai cru voir que c'était sur les queen king et tout.
De ce que j'ai regardé, en tout cas, toutes les interviews, c'était que des drag queens.
Ok, d'accord. Ok, voilà. Cool.
Bon, après, il sera pas trop...
Mais après, c'est qu'il y en a tellement peu que c'est vraiment chouette qu'il y en ait deux. Mais je vous recommande comme cadeau de Noël, c'est vraiment chouette à faire et à se faire offrir. Voilà.
Trop, trop bien. Moi, en mini-top, pour finir, qui est vraiment pas dans ces moods-là, c'est un petit manga que j'ai découvert qui s'appelle Le vendeur du magasin de vélo, en fait, parce que ça me tend un peu que ça s'appelle Le vendeur du magasin de vélo et non pas Le vendeur de vélo. Bref, et voilà, c'est un petit manga trop mimi, un peu rom-com. C'est un nom, j'oublie tout le temps, Shoujo, je crois.
Ok, Shoujo. Trop chouette.
Shoujo. Un peu les mangas pour les filles, je mets des guillemets.
C'est comme ça que c'est classé.
Exactement. Exactement. Et donc voilà, c'est un nouveau, je crois, vu qu'il y a que deux tomes, et j'ai lu les deux tomes là en deux secondes ce week-end, et c'était trop bien, c'est tout doux, c'est une petite histoire de love et qui est pas trop problématique, donc c'est cool. Parce que dans les mangas, il peut y avoir des histoires de love très problématiques, ce qui m'empêche pas de les lire et de kiffer et d'être un peu genre paradoxal dans mon féminisme dans ces moments-là. Mais là, c'est vraiment une petite histoire de love trop, trop mimi.
Trop chouette.
Voilà.
Bon, ben merci beaucoup d'être venue
partager avec nous ce moment.
Et tu as un podcast aussi disponible sur toutes les plateformes audio.
Ouais, qui se transforme maintenant du coup en documentaire sur YouTube. Donc du coup, c'est sur la chaîne de Manifesto 21 que ça se passe. Après, le son sera extrait et mis sur le podcast de Mécréante. Mais c'est quand même mieux parce qu'on va se faire chier à faire des petits décors et des déguisements venir voir les vidéos. Voilà.
Okay. Super. Trop bien. Et on peut te suivre donc sur le compte Insta Mécréante où tu fais des posts réguliers où tu t'insurges globalement. On va utiliser le mot insurgé.
Et informé.
Et tu nous informes effectivement. Eh ben merci beaucoup. Merci à bientôt à tout le monde.
Merci.
Bye. Bye.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro. Merci. Bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.